Bienvenue sur notre radio préférée et je vous propose une petite instruction méditation dans ce petit parcours de formation que nous avons déjà initié il y a maintenant 9 émissions sur l'Église. L'Église que l'on définit comme peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. Alors, évidemment, quand on part de cette formule, on se dit, mais bon, à la fois on comprend ce que ça veut dire, et puis on ne voit pas très bien les articulations et surtout les conséquences. Donc cette formulation vient du Concile Vatican II. Dans les années 60, le Concile Vatican II décrit effectivement l'Église comme une réalité complexe, à la fois humaine et divine, et le Concile emploie alors 3 images pour désigner l'Église: peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple de l'Esprit-Saint. Bien évidemment, le Concile n'a rien inventé, puisqu'un Concile ne fait que proclamer et expliciter la foi de l'Église, et ces expressions sont assez courantes, notamment l'image de l'Église corps du Christ est fréquente chez saint Paul, le Christ tête du corps qui est l'Église. Le peuple de Dieu est quant à lui celui annoncé dans l'Ancien Testament, peuple dont Israël n'était qu'une figure historique. Quant à l'Église temple de l'Esprit-Saint, eh bien, le Concile rappelle que l'Esprit-Saint habite dans le cœur des fidèles comme en un temple, citant ainsi saint Paul. Sauf que, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre vie ? Parce que nous faisons partie de l'Église. Nous sommes donc le corps du Christ. Comment puis-je être le corps du Christ alors que je suis pécheur ? Comment, alors que je suis mortel ? Eh bien, je suis le corps du Christ, tout simplement parce que « qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Christ, demeure en moi et moi en lui ». Et tous ceux qui mangent un corps se nourrit d'une nourriture. Et tous ceux qui mangent la même nourriture font donc partie, d'une certaine manière, d'un seul corps. Pour une fois qu'il y a un cantique populaire qui dit une vérité théologique, nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, il faut quand même le souligner. Mais le Concile explique un peu son choix. Le Saint-Concile, réuni dans l'Esprit-Saint, désire ardemment illuminer tous les hommes de la lumière du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Bon, je veux bien, mais enfin, c'est pas très très clair. Celle-ci, pour sa part, est dans le Christ comme un sacrement, ou si l'on veut, un signe et un moyen d'opérer l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. Donc, si je m'en tiens aux paroles, je me dis que l'Église, c'est tout le genre humain. C'est tout le genre humain. Et si c'est tout le genre humain, qu'est donc l'Église catholique ou l'Église chrétienne ? Alors, ce qui est intéressant, là, c'est justement... ça fait référence à un grand théologien, le cardinal Journet, qui dit que l'Église font partie de l'Église tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier des hommes, en admettant qu'il y ait une fin du monde. C'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes sont appelés à être sauvés par le sacrifice total du Christ, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens, y compris ceux qui ne le savent pas, y compris ceux qui sont d'une autre religion, y compris ceux qui n'ont jamais entendu parler ni du Christ, ni du Dieu unique. Pensons, par exemple, à toute l'humanité qui s'est succédée sur Terre pendant des milliers d'années et qui n'avait certainement pas entendu parler de Jérusalem, puisque ça n'existait pas encore à l'époque. Et en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre une phrase qui a très très souvent été mal comprise. Quand on dit « hors de l'Église, point de salut », ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans l'Église seront damnés. Ça, c'est une interprétation partielle, mesquine et fausse. Ça veut dire que tout homme sera sauvé par, justement, l'Église, en ce sens qu'elle est peuple de Dieu et que ce peuple de Dieu incorpore toute l'humanité. Mais alors, allez-vous me dire, comment peut-on prétendre que Dieu respecte la liberté de chaque homme et prétendre aussi sauver le monde entier? Pardonnez-moi d'être un peu provocateur, et s'il y en a qui n'ont pas envie d'être sauvés? Eh bien, nous allons voir que cette formulation y répond aussi. Puisque les théologiens précisent que le Père a voulu appeler tous ceux qui croient au Christ à former la Sainte Église, qui, annoncée en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit-Saint et au terme des siècles se consommera dans la gloire. C'est déjà bien plus précis. Évidemment, il y a toujours un peu des mots compliqués, comme dans tous les textes théologiques. La Sainte Église annoncée en figure dès l'origine du monde. Ça veut dire quoi? C'est exactement lorsqu'on dit, par exemple, que Marie est en figure la nouvelle Ève, comme le Christ est un nouvel Adam, puisque par un seul homme et une seule femme, le péché est entré dans le monde, eh bien, c'est par une seule femme et un seul homme que le péché en sera extirpé et que Satan, enfin, disons, les forces du mal, les forces mauvaises, la mort, sera vaincue. Donc, figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on voit bien cette progressivité de la révélation qui fait passer d'une religion, je dirais presque naturelle, le terme existe, tous les hommes sont naturellement religieux, il y a chez l'homme une part de crainte ou de révérence ou d'inquiétude ou d'interrogation au moins devant l'inconnu, l'immensité, le mystère. Et cette inquiétude est la base de toute religion. Avec ensuite des erreurs qui font qu'on commence par de la magie. Et puis la magie n'est pas, contrairement à ce que pensent les gens, une perversion de la religion. C'est parce que la magie n'a pas réussi qu'on est allé plus loin. Parce que si, évidemment, c'est comme notre prière, hein, je mets un cierge et je dis je veux passer mon bac. Si ça marche, c'est plus la peine d'aller à la messe, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a là l'histoire du peuple d'Israël qui est l'élargissement d'un salut ou d'une question individuelle que se pose chaque homme à une réponse collective, le peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et enfin, à la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit-Saint et à la fin des temps, au terme des siècles, on ne sait pas quand cela se passera, si ça se passera de manière collective, avec des ténèbres couvrant la terre, ou si ça se passe individuellement dès que nous passons d'une vie temporelle à une vie éternelle, c'est-à-dire au moment de notre mort, eh bien, à ce moment-là, tout cela sera consommé dans la gloire, c'est-à-dire que la gloire de Dieu illuminera tout le monde et les hommes ne pourront qu'être submergés, en quelque sorte, par la lumière de la vérité. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Jusque-là, on arrive encore à comprendre à mi-chemin entre la théologie, le symbole et l'histoire, mais pour autant, le temps de l'Église, c'est d'abord un aujourd'hui. Car l'Église contribue aussi à l'histoire universelle. Et elle oriente l'histoire universelle par son action. Il ne faut quand même pas oublier qu'une bonne partie des grands principes humanitaires sont nés dans l'Évangile. Le respect de la personne, l'unicité de chaque individu, la sacralité en quelque sorte de la vie, la séparation entre le domaine du religieux et le domaine du politique, c'est-à-dire, en gros, une laïcité bien comprise, c'est aussi dans la Bible. Et l'Église oriente donc par son action l'histoire universelle, et l'Église étant habitée par la présence de l'Esprit, qui rencontre l'Église, eh bien, rencontre en quelque sorte le Christ. Et exactement comme les contemporains du Christ ont rencontré le Christ. C'est-à-dire, ils ont rencontré un homme qui mangeait, qui buvait, il le rappelle d'ailleurs plusieurs fois dans l'Évangile, les esprits ne mangent pas et ne boivent pas, qui se met en colère, qui souffre, qui doute, qui a peur. Père, si cela peut se faire, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, l'un de vous me trahira. Donc il est passé effectivement par toutes les conditions de la nature humaine, excepté le péché bien sûr, et l'Église étant habitée de la présence du Christ, qui trouve l'Église, trouve le Christ. Et on va me dire, mais alors évidemment, mais l'Église a des défauts, l'Église c'est les indulgences, c'est l'Inquisition. Mais bien évidemment, puisque l'Église est composée d'humains. Ça n'est pas une espèce d'éon théologique, une réalité absolument pure et idéale qui planerait dans les cieux et qui serait inaccessible. Elle est composée d'humains, parce que l'histoire du monde est l'histoire de Dieu. Parce que c'est nos vies qui vont être sauvées. C'est nos personnes avec leur histoire, leur culture, leurs défauts, leurs qualités, qui vont connaître la béatitude et l'éternité. Ça n'est pas des personnes idéales. Ça n'est pas celui que nous aurions aimé être ou celui que quelqu'un d'autre aurait aimé que nous soyons. C'est ce que nous sommes avec notre boue, nos déchets, nos reniements, nos mensonges, nos péchés, nos saloperies, tout ce qui est un peu au fond de nous-mêmes et que nous ne voulons pas savoir, exploité d'ailleurs, et cela est exploité très souvent par l'esprit malin qui fait que nous avons honte de notre péché. Mais ça, c'est uniquement pour nous éloigner du sacrement de réconciliation. J'ai tellement honte que je ne pourrai jamais le dire. Mais honte de quoi ? Honte de quoi ? Quelle que soit la faute, elle a été rachetée par le Christ. Ô bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, dit la liturgie pascale. Donc, en définitive, il ne suffit pas de voir l'Église seulement comme une réalité humaine, c'est-à-dire un groupe ayant un certain nombre de membres qui sont des baptisés et des pécheurs, les images de peuple de Dieu, de corps du Christ, de temple de l'Esprit, eh bien, cherchent ainsi à nous rendre l'Église comme réalité divine, ce qui n'est pas absolument évident, puisque comment pouvons-nous connaître une réalité divine alors que nous sommes des êtres limités dans le temps, dans notre vie et par notre intelligence ? Eh bien, elle va effectivement nous rendre l'Église comme une réalité divine plus familière. Mais il faut bien maintenir que l'Église reste un mystère que seule la foi peut accueillir. Et en fait, cette formulation se présente à tout chrétien, que ce soit un chrétien de fait ou un chrétien qui a un désir de peut-être de voir ce que c'est que le christianisme, une curiosité, comme une initiation à la vérité et à la vie chrétienne inséparable. Quand je parle de formulation, c'est ce triptyque « Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit ». Alors évidemment, il y a derrière ça toute une culture européenne, toute une culture gréco-latine et toute la question de l'articulation entre la raison et la foi. Comment puis-je connaître par la raison une réalité divine qui surpasse la raison ? Saint Thomas d'Aquin nous dit que l'on peut parfaitement adhérer à la foi sur la seule considération de la sublimité de la vérité chrétienne. La vérité chrétienne, c'est quoi ? C'est la vérité n'est jamais une affirmation. La vérité est toujours une relation. Ce qui est vrai, c'est quand je dis que ceci, ce que j'ai devant moi en vous parlant, ceci est une feuille de papier, c'est vrai. Mais la feuille de papier, elle n'est ni vraie ni fausse. Elle est neutre. Ensuite, c'est, est-ce qu'il y a une adéquation, une correspondance entre ce que je crois ou ce que je pense, ou mon raisonnement, est une réalité matérielle ou spirituelle, et s'il y a une coïncidence, eh bien, à ce moment-là, on est dans la vérité. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'un raisonnement est vrai, parce que il se propose d'arriver à une réponse ou à une solution en suivant une certaine logique, et donc, il y a une vérité, puisqu'il arrive à coller parfaitement à la réalité qu'il prétend démontrer ou décrire. Cependant, le chrétien, parce qu'il est chrétien, doit être un homme complet. Et l'assimilation de la foi va donc pousser le chrétien à revenir sur les préambules de la foi. Qu'est-ce qui prépare l'enracinement de la foi dans notre intelligence ? Qu'est-ce qui nous permet de dire que la foi n'est pas de la superstition, que la foi n'est pas de l'idolâtrie, que la foi n'est pas une création de l'intelligence humaine, comme ont prétendu certains philosophes au XIXe siècle? Eh bien, pour que nous fassions nôtres les vérités de Dieu, pour que nous nous approprions les vérités de Dieu, il faut qu'elles nous attirent à elles. Vérité et vie chrétienne sont inséparables, et ce point, qui est absolument capital, est particulièrement difficile à faire comprendre en catéchèse. Pourquoi ? Parce que, dans le langage courant, la vérité est le contraire du mensonge. Parce que, dans le langage courant, on a l'habitude d'exiger en quelque sorte des gens qu'ils disent la vérité, mais qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce qu'une vérité ? Et ça n'est pas cela. La vérité, c'est l'adéquation entre une chose et sa définition. Si j'ai devant moi une rose et que je dis ceci est une rose, avec la définition de la rose, un végétal appartenant à telle famille, avec des pétales, des machins, une odeur agréable et des épines, eh bien, c'est vrai. Si je dis que tel quadrupède que j'ai sous les yeux, qui est un ongulé, ruminant, mammifère, vivipare, est une vache, c'est vrai. Mais si je dis cela d'une petite chose verte qui saute de feuille en feuille sur un étang, non, ça s'appelle une grenouille. Et donc c'est faux. Ce qui ne veut pas dire que la grenouille est moins vraie que la vache. Mais la vérité est dans la relation entre ce que je dis d'une chose et ce qu'est la chose. Si je dis que Dieu est bon, c'est une vérité. Si je dis que Dieu est mauvais, ça n'est pas une vérité. Donc il faut bien comprendre la vérité comme une adéquation, c'est-à-dire que la vérité est l'adhésion réciproque de la foi et de la raison. Il ne peut pas y avoir une contradiction entre ma foi qui m'est donnée par Dieu et ma raison qui a été créée par Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir de contradiction en Dieu lui-même, et que s'il y a une contradiction entre ma foi et ma raison, c'est soit que je me trompe dans le raisonnement, soit que j'ai un petit problème de foi. À partir de ce moment-là, comment s'engage ce juste rapport entre foi et raison ? La primauté de la parole de Dieu rappelle la nécessité d'enraciner la foi dans l'intelligence. Et donc, il faut s'articuler, en quelque sorte, à une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire un discours sur l'homme et sur l'homme chrétien, d'une nature humaine, qui est naturellement ouverte au dynamisme de la grâce. Et le dynamisme de la grâce, c'est le dynamisme de la gratuité. Une grâce, ça n'est pas seulement quelque chose que l'on fait à quelqu'un, ça n'est pas simplement quelque chose de joli, comme on dit, c'est gracieux. C'est très exactement quelque chose qui n'a pas, en quelque sorte, de raison d'être parce que la chose se suffit à elle-même. La grâce, c'est cette grâce que nous donne l'Esprit, que nous donne la divinité, d'être capable de poser justement des actes qui n'ont parfois pas de raison. Quelquefois même un acte inutile. Et là, cela rejoint la révélation primitive. Je peux parfaitement expliquer par la raison la variété des différentes espèces animales et végétales qui sont sur la Terre. Je peux les expliquer par une nécessité de s'adapter à des climats différents, à des territoires différents, à des précipitations plus ou moins d'eau différentes. Je peux aussi expliquer que, en fait, c'est un extraordinaire écosystème, puisque les arbres absorbent certains gaz pour les restituer en oxygène. Enfin, on peut dire tout ça, et c'est très vrai. Simplement, est-ce que cela rend nécessaire la variété des espèces végétales et leur beauté ? Qu'il y ait besoin de poissons pour, dans la chaîne alimentaire, recycler tout ce qui traîne dans la flotte, bien évidemment. Mais pourquoi y a-t-il une telle variété ? Et même en acceptant la variété, pourquoi certaines espèces, et toutes les espèces d'ailleurs, sont-elles si belles naturellement et de manière gratuite ? La beauté est le signe de la grâce. La beauté est le signe de la gratuité. C'est ce qui advient sans raison. Quand on fabrique quelque chose, on peut fabriquer quelque chose de bien fabriqué, en respect des règles de l'art, en respect des proportions, en respect de tout ce que l'on voudra, en respect d'un agencement de couleurs. Et tout ça peut se réguler, se définir, se quantifier, mais ce supplément d'âme, en quelque sorte, qui va faire que, devant quelque chose, je vais être touché au plexus par cette beauté absolue, à ce moment-là, cela, effectivement, relève de la grâce. Et c'est ce dynamisme de la grâce, cette beauté qui nous pousse à aller plus loin, que c'est sur cette certitude de la grâce, cette nature ouverte au dynamisme de la grâce, que se base l'anthropologie, non pas l'anthropologie au sens courant, mais l'anthropologie chrétienne. Et effectivement, ça demande constamment cette dynamique de la grâce, qui est la dynamique même de l'Esprit-Saint, qui passe du Père à l'Esprit et de l'Esprit au Père. Eh bien, il faut, quand on lit un livre, on va sauter un certain passage, et puis on va y revenir. On va lire, et on va relire. Et c'est cela qui va faire que, petit à petit, nous allons faire nôtre les vérités de Dieu. On ne comprend pas le même texte à 8 ans, à 20 ans, et à 60 ans de la même manière. Il en est la même chose pour les vérités divines. Il y a la nécessité d'un va-et-vient constant, l'entrée dans un cheminement, un approfondissement progressif et existentiel de la croix et de la foi. Mais cette initiation va ouvrir sur une rencontre dont aucun livre du monde ne peut épuiser la réalité. Ce que notre cœur ne peut penser ce que notre intelligence ne peut même pas imaginer, comme dit saint Paul, c'est-à-dire cette dimension eschatologique de la théologie, c'est-à-dire eschatologique, ce qui relève de la fin des temps, ce qui se passe après la mort, ce qui se passe lorsque toute la création sera réunifiée pour être justement ce peuple de Dieu, ce corps du Christ et ce temple de l'Esprit, mais de manière absolue, complète et totale, eh bien, cette dimension eschatologique de la théologie et sa conscience vive de ne pouvoir aborder la connaissance de l'amour de Dieu qui dépasse toute connaissance qu'avec humilité. C'est-à-dire que l'articulation entre la foi et la raison s'ouvre sur une dynamique de contemplation qui a comme fruit l'humilité. Et c'est en cela que, effectivement, on s'aperçoit que cette réalité définie par corps du Christ, temple de l'Esprit ou autre, eh bien, et peuple de Dieu, eh bien, elle a une existence puisqu'elle a une vie, puisqu'elle a une respiration. Elle fait l'union de la raison et de la foi et de la révélation. Elle amène à la connaissance de la vérité, qui amène à la dynamique de la grâce et qui a pour fruit l'humilité. Voilà, si, de manière à le faire de tout ça de manière très très rapide, voilà ce que l'on pourrait essayer de dire et de poser comme problématique ou comme base à tout raisonnement sur l'Église. C'est aller, en fait, d'aller de découverte en découverte. La découverte du spirituel qui est commun à tous les humains, et puis la découverte de Dieu, et puis la découverte que ce Dieu parle, et que cette parole de Dieu fait une Église vivante, et que dans cette Église vivante, il y a des dimensions qu'on ne peut pas évacuer, qui sont la croix, la résurrection, le mystère du Christ. Et puis il y a la découverte de l'Eucharistie, la découverte de la vie nouvelle, et enfin la découverte de la vie éternelle. Ce parcours n'est pas de moi, c'est le plan d'un livre que je conseille, même s'il est un peu ancien, à tous nos auditeurs. C'est l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit, de Louis Bouillet, prêtre catholique, spiritain, oratorien, pardon, et aussi, qui a été avant pasteur, et qui vraiment est ce qu'on a pu écrire, à la fois de plus accessible et de plus profond. Bien évidemment, il y a aussi les ouvrages du cardinal Journet, mais là, ça demande quand même, il y a plusieurs tomes, c'est beaucoup plus gros. Pour une première initiation, Louis Bouillet, allez chercher sur Internet, B-O-U-Y-E-R, reste bien évidemment une référence. Attention et à bientôt pour la suite de cette méditation sur l'Église.